Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
Salut tout le monde, salut JP.
Et pour ce nouvel épisode de la saison 6, je me souviens Gab, dernier épisode tu m'avais corrigé, je pense qu'on est rendu à 16, mais peut-être que tu vas devoir à nouveau me corriger là.
Je n'aurai pas à te corriger cette fois-ci.
J'ai fait un plus 1 par rapport à mon fichier de notes habituel, parce que clairement que j'avais manqué un fichier de notes, ou bien que j'en ai utilisé, je sauvegarde par-dessus... beaucoup trop de fichiers et je les archive pour des raisons un peu louches. Bref, on vous fait aujourd'hui là, un épisode de deux fois au son de la cloche. D'ailleurs, deux sujets que Gab a sortis. Là, ça fait quelques temps qu'on partageait les idées de sujets. Là, Gab est arrivé avec deux aujourd'hui. Le second, vous allez le voir, là, je vais mettre un petit peu de dérision dans ma présentation. Là, Gab voulait absolument en parler. Je vous conviendrai jusqu'à quel point on va pouvoir en discuter à ce point-là. Mais bon, tout de même intéressant. Là, donc, on risque de parler de compagnies listées ou du moins d'éléments qui peuvent entraîner un disclaimer personnel. Je sais que Gab aussi, pour le premier sujet, tu voulais faire une petite mention spéciale là, vu que, spoiler, on va parler... dans le premier segment là, du monde de la consultation et d'une compagnie spécifique là, qui a eu quelques événements là, significatifs qui ont été annoncés là, au-delà de l'industrie plus globalement. Et je pense que Gab, tu as le disclaimer classique de début d'épisode, mais également une petite mention là, sur ton opinion dans le contexte du premier sujet sur le monde du consulting.
Non, et puis c'est ça, on vous avait déjà dit effectivement dans un certain contexte que je pense que c'était il y a deux, trois épisodes là, quand on avait fait celui sur les placements de produits, etc., ben que pour nous, c'est une des règles importantes qu'on s'est fixées, puis moi, c'est une règle que je me fixe toujours dans la vie, là, mais que si jamais, tu vois, il y a quelque chose où ton intégrité, on va dire, ou ton intégrité intellectuelle où, peut être compromise, ou entre guillemets, il peut y avoir un certain conflit d'intérêts, ben, on tient à vous le préciser, mais c'est vrai que je parlais d'un de mes concurrents, donc évidemment... à prendre avec des pincettes et que, évidemment, c'est une entreprise qui a ses avantages, qui a ses inconvénients, puis la mienne aussi, là, pour laquelle je travaille. Là, donc, je ne vais pas citer de nom, évidemment, là, donc je pense que vous serez capable de faire la part des choses. Et puis, évidemment, le disclaimer que vous savez au début d'épisode, qu'évidemment, vous le savez, ça je le répète depuis plus de 120 épisodes là, maintenant, mais évidemment, tout ce qu'on parle dans le podcast, il s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement, on n'est pas responsable effectivement des décisions financières que vous prenez, on vous recommande toujours de prendre contact évidemment avec un expert si vous avez des questions, quiconque est autorisé aussi à vous émettre des recommandations. Lui, seule cette personne sera en mesure de pouvoir déterminer avec vous aussi si ça fait du sens avec votre profil d'investisseur et à votre portefeuille de placement. Puis je pense qu'effectivement, deux sujets hyper intéressants, en tout cas j'ai hâte de pouvoir en parler. Puis je pense qu'on est prêt, JP, je sais pas ce que t'en penses pour lancer le premier jingle, n'est-ce pas?
Absolument, donc commençons en force avec le premier au son de la cloche. Parfait. Donc, bon, qui dit consultation, on s'en va directement dans le monde des Big Four. On veut parler un peu plus précisément là, de EY pour deux raisons. On sait, là, j'en parlais plus globalement, le secteur de la consultation a eu beaucoup d'annonces de licenciements. Là, on a fait quelques topos là-dessus. On n'est pas vraiment embarqué directement sur le sujet, là, même si il y a plusieurs industries qui en ont annoncé, les techs l'ont fait. C'est un peu le même cas au niveau de la consultation. Donc, EY a un peu emboîté le pas. De plusieurs de ses concurrents, là, que ce soit KPMG, McKinsey, même Accenture, au niveau d'annonces de réduction d'effectifs. Ça reste quand même une de celles qui est la plus élevée là, aux États-Unis. Là, on parle d'à peu près 5% de leur effectif, 3 000 salariés aux États-Unis qui allaient être licenciés là, pour ce qui est décrit comme étant là, en raison des conditions économiques et de la surcapacité dans certaines activités. Pourquoi est-ce qu'on voulait en parler? Oui, il y a ce volet-là. Peut-être faire une petite discussion sur... qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur du consulting depuis les derniers mois, dernières années, surtout après la pandémie, mais également parler plus spécifiquement de EY et de son plan qui a achoppé là, tout récemment. Et chez Gab, c'est toi qui me le présentais, le plan de scinder en deux ses activités, là, donc de scinder le secteur d'audit du secteur de consulting. Donc, c'est un plan qui a été discuté pendant plus d'un an. Si je ne me trompe pas, là, j'avais sorti les stats financières. Là, on parlait quand même d'un investissement qui n'était pas de deux sous, là, on parlait de 100 millions de dollars US qui avaient été investis là-dessus pour finalement un projet qui avait été en bon anglais turned down là, par les associés au niveau du marché américain, là, de la division américaine de EY. Donc, cette espèce de spin-off-là des activités entre ce qui se passe côté consulting et audit, audit n'a pas eu lieu. Et le raisonnement derrière ça, Gab, tu prends aller plus en détail là-dessus, là, mais il y avait quand même des fins d'efficience au niveau de l'offre qui pouvait être faite aux clients. Là. Je pense que un bon mur et une bonne barrière assez solide entre ce qui se passe côté audit et ce qui se passe côté consulting. Donc, les clients audit n'étaient pas nécessairement, pouvaient pas être cross-sellés, là, entre guillemets, tant que ça, vers le volet du consulting. Donc, c'était, à mon avis, un plan qui avait ses raisons d'être, qui était intéressant, qui, par rapport à l'ensemble des Big Four, était un petit peu précurseur là, par rapport au Deloitte et KPMG de ce moment. Mais ça, comme on l'a dit, ça n'a pas fonctionné. Et c'est un peu là où il y a Anguille Souroche. Clairement que lorsqu'un plan qui a coûté des centaines de millions de dollars tombe à l'eau et est littéralement mis à la déchiqueteuse, c'est sûr que soudainement on essaie de trouver des économies de coûts et là on annonce la plus haute nombre de licenciements dans l'industrie. Je pense que ça fait quand même pas mal de sens de faire 1 plus 1 égale 2. Par contre, bon, c'est sûr qu'ils vont pas aller dire ouvertement. Là. Le dernier point que je voulais ajouter là-dessus, comme on l'a dit, bon, plan qui est tombé à l'eau, annonce de licenciement la plus élevée de l'industrie. Quand même soulever aussi le fait qu'après la pandémie, et même durant la pandémie, là, après le gros crash de mars 2020, on a quand même remarqué beaucoup d'embauches au niveau du secteur du consulting pour la simple et bonne raison qu'il y avait deux grands dossiers qu'un nombre assez important de compagnies avait souvent besoin. Un, une transition informatique, donc plusieurs compagnies n'ont pas eu la facilité de transiter avec un effectif qui était majoritairement à distance. Donc il y a eu énormément de support, énormément de consulting côté TI, côté management également, là, dans le but de faciliter les opérations dans un monde de travail décentralisé des fameuses tours. On avait fait un épisode là-dessus justement là, au niveau des buildings, des centres-villes qui étaient vides. Il y a eu ça qui a fait énormément d'argent et qui a eu énormément de dossiers, énormément de besoins. Donc il y a eu beaucoup d'embauches qui ont été faites dans des compagnies comme EY durant cette période-là. Et on en a parlé à maintes reprises également. Il y avait tout le volet des M&A. S'il y a bien quelque chose qui était parti un peu en feu durant la pandémie, c'était les M&A. Il y en avait une tonne et une tonne et une tonne avec les marchés qui étaient en grande croissance. Chaque truc se vendait comme des petits pains chauds lorsque ça sortait presque après le listing initial, après le IPO. Et qui dit IPO, dit ben, les firmes de consulting sont énormément impliquées souvent dans cette démarche-là de mise en marché d'une nouvelle compagnie qui était initialement privée. Donc, cette juxtaposition d'énormes dossiers et ces embauches massives qui ont eu lieu font quand même un peu de raisonnement aussi. T'sais. Oui, EY a eu un plan qui est tombé, qui a coûté très cher, qui peut justifier indirectement les coupures de coûts côté emploi qu'ils font présentement. Mais c'est sûr qu'il y a eu également dans l'industrie beaucoup d'embauches qui ont été faites dans certaines divisions, pas partout, là, pas nécessairement audit, ça reste audit, là, ça reste... On embauche le plus de personnes, on essaie de s'assurer qu'ils ne font pas des burn-out, puis on roule ça aux 3 ans, je dirais presque aux 1 an, avec des nouveaux... Et on connaît beaucoup de personnes qui ont travaillé dans des volets audit ou en comptabilité pour des Big Four, et c'était un petit peu toujours ça, là. Jamais très très facile. Mais c'est sûr que côté consulting, il y a eu une bonne bulle d'embauche qui a eu lieu dans les derniers mois, dernières années depuis la pandémie. Et c'est sûr qu'il faut quand même le considérer. Donc moi, je vois un mix des deux, le fameux Project Everest, qui est le projet de spin-off, et de l'autre côté, je pense, il y a eu trop d'embauches, il y a eu beaucoup de besoins. Et l'industrie présentement s'est calmée un petit peu, on l'avait dit, les IPO ont tombé et le volet travail numérique, IT, support sur comment implémenter la business décentralisée, ben on en parlait aussi. Moi-même, je retourne au bureau maintenant 2-3 fois semaine et c'est une réalité qui semble de plus en plus courante à travers l'ensemble des industries. Donc, je pense que c'est pas normal de voir une compagnie comme EY et comme ses concurrents là, baisser l'effectif, mais c'est sûr qu'il y a un petit target sur EY parce qu'ils ont investi beaucoup dans un projet qui n'a absolument pas marché, qui est intéressant, puis je sais que Gab, t'as peut-être ton avis à ajouter là-dessus, mais qui a absolument foiré, puis c'est un petit peu là, le problème quand on investit des gros sous sur quelque chose qui ne marche pas, ça ne paraît pas très très bien à ce moment-là, surtout sachant la concurrence qu'il y a dans les Big Four. Pour être une bonne affaire pour le management, si ton propre projet tombe à l'eau, comment tu peux, à mon avis, être légitime pour permettre de faire de la consultation vers d'autres firmes? C'est un bémol.
Ouais, ben après, tu disais que c'est une industrie qui est compétitive. Je vais peut-être rectifier quelques petits points que tu as ajoutés, parce que c'est vrai que c'était très pertinent ce que tu as souligné, JP. Là, mais en effet, bon, c'est vrai que l'industrie, effectivement, de la fusion-acquisition a été un peu plus en déclin, en tout cas sur l'exercice 2022. Évidemment, les conditions de marché font que c'est plus compliqué. On en a parlé 50 fois dans le podcast. écouter tous ceux d'avant, là, parce que pour le coup, c'est un tout, là, mais c'est vrai que l'activité, on va dire, transactionnelle a baissé parce que les taux d'intérêt sont plus élevés. Il y a un peu moins d'appétit, effectivement, pour faire de la fusion-acquisition. Oui, effectivement, les multiples sont un peu plus attractifs, mais il y a des conditions de marché qui font que c'est un peu plus compliqué et plus difficile d'aller voir, naviguer, comme diraient les buzzwords de consultants, là, pour le coup, d'aller naviguer à travers, on va dire, ce qui se passe entre-temps, et puis peut-être une potentielle récession, tu vois, qui arrive. On avait parlé du fameux hard landing. Là, moi, je pense que c'est plus atterrissage du Concorde là, qu'on est en ce moment, là, mais c'est tu vois, enfin, celui qui s'est crashé, là. Puis c'est une blague un peu noire, là, mais vous m'aurez compris, là. Mais en effet, c'est vrai que l'activité transactionnelle s'est faite. Alors, rappelons quand même que le Big Four, puis plus généralement les agences de conseil, je pourrais les diviser en deux gros groupes, ce qu'on appelle les MBB, là, donc les McKinsey, BCG, Bain, là, qui sont les principaux. Puis je pourrais peut-être ajouter Accenture aussi, que tu as mentionné, JP, qui elle aussi est en train de couper progressivement, en tout cas des postes. Je crois que c'était, on parlait d'à peu près 20 000 salariés, 19 000 si je ne me trompe pas. C'était il y a à peu près un mois, là, donc ils ont annoncé ce départ-là. Bon, ça reste mineur par rapport à leurs effectifs, là, puisque c'est des entreprises avec plusieurs centaines de milliers d'employés, là. C'est vrai que, bon, alors la contraction fait qu'évidemment, tu as un peu moins de demandes, effectivement, d'emploi. Et puis, c'est vrai que les jobs de consultation sont quand même un peu plus variables. Souvent, tu es payé à l'heure. C'est ce qu'on appelle des heures chargeables. Donc, évidemment, s'il y a moins d'heures chargeables à amener aux clients parce qu'il y a moins de demandes, bah, c'est vrai que, pour le coup, tu penses à couper des effectifs. Alors, j'ai l'impression que c'est, bon, très concentré quand même sur les États-Unis, puisque c'est les derniers où les taux ont quand même énormément monté, où ce fait que, bah là, effectivement, l'activité transactionnelle s'est ralentie, et surtout dans les secteurs, effectivement, de M&A. Tu l'as bien dit, les secteurs d'audit ne vont pas être affectés dans la plupart des grands cabinets, puisque c'est souvent des clients répétés, hein. Tu sais, c'est « repeated business », tu vois, c'est des clients qui reviennent d'année en année, et puis pour le coup, là, la demande, contre vents et marées, bah, elle va continuer de rester. Correction, par contre, tu as mentionné que l'activité des IPO, t'es là. Bon, il faut avouer quand même que souvent les cabinets du Big Four, qui sont l'autre branche, donc là, vous connaissez les noms, là, Ernst & Young, KPMG, tu avais mentionné Deloitte, et puis PwC, qui est le dernier, et ben eux font un peu moins de ça, font plus des compagnies de mid-market, donc souvent ce sont des entreprises qui ont un revenu inférieur à 100 millions de dollars, là, donc c'est souvent une clientèle un peu plus niche un peu plus spécifique, et elle aussi elle est vraiment visée effectivement derrière cette montée des taux puis cette baisse de l'activité transactionnelle, ce qui fait qu'effectivement ben là le côté encore une fois M&A advisory commence évidemment à avoir une épine dans le pied pour le coup qui est assez significative. Alors la question aujourd'hui, c'est de savoir, bon, bah, est-ce que UI est vraiment en danger? Je pense pas, parce que c'est vrai que ça reste un groupe financier, hyper important. Le nerf de la guerre, évidemment, c'est les activités d'audit. Les activités de conseil, tu l'as mentionné, c'est vrai qu'il y a ce problème du cross-selling qui est un vrai problème dans l'industrie du conseil, en tout cas en Big Four, parce que c'est vrai que tu ne peux pas conseiller effectivement ton auditeur, tu peux pas être gendarme et conseiller à la fois, là, tu vois, c'est un peu la façon dont je le vois, là, mais tu peux pas être, il y aurait un trop gros conflit d'intérêts, et d'avoir la même personne qui te surveille, puis en même temps qui te donne des conseils, bon, par exemple, pour, je sais pas, optimiser fiscalement, pour aller, par exemple, faire des opérations, par exemple, de fusion-acquisition, ce serait trop complexe, tu vois, d'un point de vue de conformité, et puis on va dire vraiment d'éthique, on va dire, des affaires. Donc c'est vrai que ça pose un vrai problème. Et le projet Mont Everest à l'origine que tu as mentionné, pour rappeler un peu aux auditeurs, eh ben, le but de cette transaction-là, justement, c'était d'éviter d'avoir cette épine dans le pied. Être un peu comme Accenture, d'être capable d'être une compagnie publique sur les marchés financiers, mais qui produit non seulement des conseils du service conseil, comme on le connaît là, donc comme le fait le MBB, donc là où c'est plus du management consulting, donc c'est plus de la stratégie, de l'implémentation stratégique, et d'aller plus d'avoir une gamme de services très variables qui vont aussi évidemment sur les services financiers, mais aussi d'être indépendant et puis d'éviter de se mettre... les pieds dans le plat, à dire ah bah non, ça, ce client-là, je peux pas le servir parce que c'est un client d'audit. Je sais que UI, il y avait ce problème-là, tu vois, même par exemple, même à Montréal. Donc C'est assez important de voir que bon, les transformations de cette industrie-là, à l'origine, c'était peut-être une bonne idée. La réalisation, c'est vrai que ça a coûté, que tu l'avais mentionné, quasiment 600 millions de dollars qui sont partis en fumée. Beaucoup d'incertitudes aussi, c'est ça, sur la compagnie, c'est de dire, bon, est-ce qu'ils sont capables de tenir leurs engagements? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir une vision stratégique claire? On a l'impression que le plan n'a peut-être pas été assez préparé en amont, avec les partenaires qui sont les propriétaires, rappelons, de la compagnie, là, parce que ce n'est pas comme une compagnie en bourse. Les cabinets d'audit appartiennent à des partenaires, donc tu l'avais dit, là, des associés qui ont des actions de la compagnie, un peu comme McKinsey, tu as une part des profits, mais tu investis aussi à la valeur des actions pour devenir partenaire. Tu dois acheter en gros ton siège, là, c'est un peu comme ça. Donc c'est un peu particulier comme contexte. Pourquoi le projet Mont Everest d'ailleurs a foiré? Ben, je pense que c'est vrai que les associés n'étaient pas contents parce qu'il y avait quand même des synergies qui se créaient, tu vois, dans le groupe. Le fait de pouvoir aller quand même vendre des services conseils, par exemple transactionnels, pouvait se faire quand même avec certains auditeurs. Je le vois par exemple dans des services niches de soutien à l'audit. Et ben c'est vrai que ça génère énormément de sous, tu vois. Donc je pense qu'il y a des désavantages, effectivement, d'être membre d'un Big Four pour un groupe de services conseils, mais tu as aussi des avantages aussi qui est fait que tu as quand même une certaine clientèle, puis tu as certaines ventes qui repeated aussi qui se font par conséquent. Donc, ça peut pas être parfait, et je pense que malheureusement, UI a voulu jouer dans les deux, dans les deux côtés du couteau, là, puis malheureusement, ils se sont mangés le couteau en plein dans la main, là, puis malheureusement, ça... Il est arrivé ce qui est arrivé, là.
Exact. Puis, tu sais, je pense que les conflits d'intérêts, ça date pas d'hier, là. Puis les Big Four ont toujours fonctionné malgré tout. Je pense qu'un point qui est important à soulever aussi pour les départements de consulting justement des Big Four, c'est le branding. Même s'ils sont peut-être pas en mesure de pouvoir aller cross-seller à des clients audit, ouais. Ça reste quand même que EY, ça reste EY, peu importe. Donc, il y a beaucoup, à mon avis, de gains d'image qui peuvent être faits au fait de maintenir les départements de consulting pour la question, oui, de nouveaux clients ou bien de clients qui quittent, par exemple, les services d'audit et qui se transféreraient uniquement vers le consulting. Donc, à mon avis, il y a ce point-là. Ça a toujours été comme ça, ça a toujours fonctionné. Pourquoi est-ce qu'en 2023 ou même en 2022, sachant que ça a duré à peu près un an, là, le projet Everest, pourquoi est-ce qu'on commence à essayer de travailler là-dessus alors que, bon, oui, il y a un peu de concurrence, tu l'as dit, les Accenture, ce monde ont amené d'autres modèles, mais en tant que tel, EY a toujours fonctionné comme ça. Et tant que leurs concurrents directs au niveau du Big Four font relativement la même chose, je ne pense pas qu'il y ait réellement un problème, ou du moins qu'il y ait réellement un besoin d'investir du temps et des ressources pendant un an pour un projet de ce type-là. Je pense qu'il est important également à soulever, puis ça, je lisais sur le Financial Times, là, et je trouvais ça quand même assez ironique. Il essayait de présenter la réflexion des leaders américains, justement, de EY, pour laquelle ils ont décidé de ne pas aller de l'avant avec le projet ou de faire tomber un peu le projet. Et certains mentionnaient, et c'est ce que je trouvais quand même curieux parce que c'était pas ma vision lorsque j'ai abordé le sujet, que le doute était que la division aurait amené peut-être le département d'audit à ne pas être suffisamment fort par lui-même. Et moi, c'était exactement le contraire que je voyais. Je me disais le fait de scinder en deux le département de consulting et d'audit de EY, j'avais plus de crainte au niveau de la division de consulting qui en résulterait que de la division unique d'audit. Et pourtant, selon ce que je vois, et la majorité des leaders semblaient s'entendre sur le fait qu'il y avait plus de crainte au niveau du département d'audit parce que soudainement, le département de consulting aurait pu aller chercher justement ces cross-sells-là au niveau des clients audit de la division qui est maintenant plus partenaire. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. C'était pas la réflexion que j'avais, mais tout de même intéressant. Moi, j'ai toujours pensé, et je pense que c'est un peu le cas, que les départements d'audit du Big Four étaient le pain et le beurre, un peu la vache à lait en termes de liquidité pour ces compagnies-là. Par contre, intéressant de voir que la possibilité de croissance et la croissance des revenus serait davantage au niveau du consulting s'il y avait un split ou un spin-off dans ce contexte-ci. Je trouve ça quand même assez intéressant. Bref, c'était le point qui m'a tout de même fait écarquiller un petit peu les yeux. Et l'autre point que je voulais mentionner, dernier petit topo, là, il faut quand même le soulever, il y a eu également, là, si on revient vers la coupure de poste, là, il y a quand même aussi une tangente où il y a eu, je pense, 62% de moins de listings que l'année passée, probablement uniquement chez EY aux États-Unis, ce qui montre tout de même là, ce qu'on parlait. Oui, il y a le projet qui a planté, mais il y a également la logique de, ben, il y avait eu un peu peut-être une sous-embauche. Donc oui, il y a du cost-cutting qui se fait, mais c'est pas forcément à 100% dû à ce fameux projet-là. Donc on ne peut pas dire que les... les gestionnaires ou les hauts gradés de EY qui mentionnent que c'est des conditions économiques et de la surcapacité, c'est pas tout à fait faux. Donc, il y a du vrai derrière ça, mais c'est toujours bien de voir la suite. À mon avis, ce qui m'intéresse pour les prochains mois, prochaines années, c'est ce problème-là, on l'a dit, des conflits d'intérêts va rester. Est-ce que d'autres compagnies, sachant l'échec de EY, est-ce que d'autres compagnies vont essayer de s'y mettre? Est-ce que des projets de ce type-là vont reprendre? Est-ce qu'il va y avoir une solution un jour à ces conflits d'intérêts-là? C'est peut-être ça qui m'intéresse plus. Tu l'as dit, là, lorsque quelqu'un lance une ligne à l'eau et que ça plante complètement, ça ne donne pas nécessairement le goût d'ouvrir la porte pour des concurrents. Donc, c'est ce qui va m'intéresser. Mais clairement, il y a des leçons à apprendre de tout ça, surtout, comme on l'a dit, lorsqu'on fait des recommandations du consulting, par exemple, par management. Je pense que c'est pertinent d'avoir des projets qui fonctionnent pour pouvoir, par la suite, être légitime et de pouvoir en parler à nos clients. Et surtout, de charger, une fois, Gab, tu ne peux pas dire, je vais le dire, mais de charger des tarifs qui sont assez imposants pour justifier des conseils de ce type-là à des clients. Mais bon, mon avis personnel là-dessus. Je ne sais pas, Gab, si tu avais un petit point que tu voulais ajouter avant qu'on passe au deuxième sujet.
Non, sur ton dernier statement, je ne vais pas rajouter. Je pense qu'effectivement, ben après, c'est comme ça. Après, je le vois un peu, malgré effectivement les critiques que je peux faire sur toute industrie, là, que ce soit la propre, celle pour laquelle je travaille ou pour d'autres, ça n'empêche qu'il y a quand même des clients qui sont prêts à payer pour ça. Donc, ça veut dire que si tu as des clients, si tu as un marché, une demande pour ces services-là, bah, ça veut dire quand même que ces services-là, ils volent le coup, tu vois. C'est un peu ça.
Après moi, avec mes kumbaya pédant le monde, c'est l'offre et la demande, l'équilibre de marché. Oui, merci.
C'est vrai, ça paraît un peu fait sortir les violons, là, c'est ça. Là, je sais pas comment dire.
There's a shift in demand, market will always go back to the equilibrium.
Voilà, bon, ça y est, maintenant, il faut utiliser les buzzwords, AI, intelligence artificielle, etc. Non, je plaisante, là, mais... Oui, il y a quand même une demande, etc. Et bon, c'est vrai qu'EY n'est pas non plus en danger parce qu'effectivement, ça reste un très gros nom dans l'industrie. Oui, les clients payent aussi pour le nom, mais pas que. Souvent, ce sont des petits groupes et chaque shop, en fait, est un peu indépendante l'une d'elles. Hein. Je le vois, tu as certaines shops qui sont spécialisées. Tu vois, par exemple, dans le marché montréalais, qui est un peu particulier, qui est quand même assez petit. Tout le monde se connaît, si tu veux. Donc, tu as des gens qui sont un peu plus spécialisés dans tel type de transaction, dans tel type de projet, tel type d'accompagnement aussi avec le client. C'est très variable, etc. Et bon, et c'est vrai que tu as quand même, pour avoir même fait des entrevues chez EY, ce n'est pas non plus des abrutis loin de là. Là, ce sont des gens très, très bons. Là, donc, je peux t'assurer en tout cas qu'ils vont continuer à charger les 500 balles de l'heure qu'ils facturent aux clients. Et qui, quand même, à la fin, parce que comme il y a le fameux profit sharing, au final, c'est pas les 500 $ de l'heure qui revient effectivement aux associés, c'est un peu moins, c'est quand même beaucoup moins que ça. Là. Mais c'est une industrie aussi qui est intéressante parce que c'est vrai qu'encore une fois, elle est un peu à la croisée des chemins et on sait que la récession va être compliquée, on sait qu'il va y avoir une baisse effectivement d'activité dans plein de secteurs, mais la question c'est. How far it could go, quoi, tu vois, c'est jusqu'à quand, c'est jusqu'à où on peut plonger, c'est un peu ça qui est assez intéressant, et c'est vrai qu'il y a certains secteurs de consultation qui seront plus stables, d'autres qui vont être évidemment beaucoup plus volatiles, et j'ai hâte de voir ça, et puis pour le coup, je pense qu'on est prêt à lancer le deuxième jingle, qu'est-ce que t'en penses?
Absolument, donc le deuxième, au son de la cloche. Parfait. Donc, je l'ai dit un peu en levée de rideau là, du podcast. Gab m'est arrivé avec une phrase là, digne d'un loup de Wall Street là, qui crie un peu du rêve là, ou qui vend un peu du rêve. Là. Donc, on veut parler. Je vais le franciser un peu, mais bon, ça reste quand même quelque chose qui m'a fait bien rire. C'est le point du private credit, le nouveau private equity. Donc, pour ceux qui s'intéressent au monde du privé, restez à l'écoute. Là. Vous allez en entendre parler de maintes et maintes reprises. Si j'introduis, c'est pas très complexe. Le private equity, c'est une compagnie qui est privée et dans laquelle on détient des parts comme n'importe quelle équité. Alors que le private credit, c'est lorsqu'on fait des prêts, des loans envers ces mêmes
compagnies. Et privé. Je suis sûr
et
que c'est
ces
privé.
Ces compagnies-là sont privées, effectivement, et on peut demander plus de collatéral, etc. C'est C'est d'un côté, c'est des titres de des parts de compagnie, et de l'autre côté, c'est d'être un créancier, là. D'être un actionnaire versus être un créancier de compagnie privée. Le PI a toujours été quelque chose d'assez intéressant. Je sais que c'est un secteur, Gab, qui t'a toujours d'ailleurs beaucoup intéressé. Un secteur qui a quand même un niveau de risque tout de même assez élevé, mais qui peut amener des rendements. Et là, c'est high risk, high rewards, là, certains diront. On peut parler de, des fois, il y en a qui vont dire que c'est quoi, c'est très dur à définir, mais c'est du 20% parfois. Et ça, Gab, tu pourras aller plus en détail là-dessus. Le private credit, bien évidemment, ben, je veux dire, on peut parler normalement d'un rendement qui est un petit peu en deçà. Là, certains vont dire du 10%. Mais par contre, il y a un peu une retournée complète de la table avec le contexte actuel. On l'a mentionné, tu l'as dit quelques fois dans l'épisode, la récession, les marchés ne vont pas nécessairement bien. Le PI, même si les compagnies sont private, vont quand même suivre un peu les tendances de marché en termes d'équité. De l'autre côté, la hausse des taux d'intérêt qui a été quand même assez successive et qu'on atteint présentement des taux directeurs qui sont bien au-delà de ce qu'on a connu dans les dernières années, dans les même des 10-20 dernières années, fait en sorte que le financement devient plus intéressant. Et qui dit financement hors marché listé, ça peut effectivement prendre tout son sens lorsqu'on peut négocier avec une compagnie privée, bien évidemment, des conditions et également du collatéral qui peut être assez varié. Là. Donc, c'est des accords presque de gré à gré. Je pense qu'il y a un intérêt, et le jeu de mots n'est pas de faire un lien avec les interest rates, là, mais il y a clairement un intérêt présentement au domaine du private credit. Par contre, et c'est là un peu mon point de vue sur mon opinion, et je te passe la parole par la suite là-dessus, Gab, est-ce que le PE peut vraiment être supplanté par le private credit? Je pense que c'est cyclique. Je pense que l'intérêt et les volumes, malgré la logique globale de l'illiquidité dans le monde des compagnies privées, je pense quand même que le private equity reste quelque chose qui est beaucoup plus viable en termes de rendement sur une période moyen terme, long terme, que le private credit. Je pense qu'à court terme et dans un contexte économique comme on le connaît présentement, oui, les rendements du private credit deviennent intéressants. Et en tant que tel, je ne crois pas qu'il y ait réellement une montée soudaine et que ta petite mention de Loot Wall Street fait réellement du sens lorsqu'on regarde, on est forward-looking dans 10 ans, par exemple.
Bon, alors je vais rajouter effectivement quelques petits points. The Rise, CPs, the new PC is the new PE, oui et non. Effectivement, il y a un effet cyclique, comme tu l'as dit, parce que le private credit intéresse de plus en plus. Alors, pourquoi j'ai eu l'idée d'ailleurs de ce sujet-là? C'est parce qu'il y a un espèce d'Instagram qui s'appelle Leadquidity. Là. C'est un type là, de New York là, qui fait des jokes de mecs de New York. Donc, moi, je trouve ça moyennement drôle, mais. Puis c'est une espèce de remarque, genre de New Yorkais, genre, yeah, I can get my. Je peux pas avoir mon bonus de 200 000, genre. C'est une autre réalité, c'est un autre monde, évidemment, que nous, mais c'est une espèce de blague de mâle blanc de Wall Street. Là. Enfin bref, ça, je trouve ça assez drôle. Et il a mis cette quote-là, « Private credit is the new PE ». Ça me fait rire parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler effectivement du crédit privé, même tu vois, sur les postes ouverts, etc. Parce que c'est vrai que c'est intéressant. C'est une classe d'actifs qui n'est pas nouvelle, puisqu'en fait, elle a toujours quasiment existé, parce qu'en fait, c'est du prêt normal entre quelqu'un qui est prêt à prêter son argent et quelqu'un qui est prêt à emprunter. Par contre, la façon dont il est structuré aujourd'hui, cette industrie-là, du private credit, comme on connaît, en fait, ça a clairement complètement explosé en fait, après 2008. En fait. Pour une raison simple, en fait, c'est parce que on a une période en fait, où on a voulu désintermédiariser. Parce que les banques, rappelons-le, depuis Bâle III, puis depuis toutes les patentes à gosse, expression québécoise, hein, après 2008, là, le too big to fail, etc., les banques ne voulaient plus prêter aux entreprises. Ah, ouais. Elles ne voulaient plus prêter, ou soit elles voulaient prêter, mais avec des covenants, donc des restrictions qui sont très strictes, donc qui font que l'entreprise doit être suffisamment stable pour pouvoir tout repayer. Sauf que des fois, tu as envie d'emprunter et que tu es malheureusement un peu plus risqué, tu vois. C'est le cas, par exemple, quand tu achètes, tu as un prêt pour acheter des meubles, par exemple, ou tu as un prêt pour acheter, par exemple, de l'équipement. C'est un peu risqué, tu vois. C'est un peu plus risqué que pour une entreprise qui est déjà démarrée, qui est déjà établie, qui a déjà des cash flows et qui a souvent un profil de crédit beaucoup plus stable, il faut quand même qu'elles empruntent, ces gens-là. Et à cette période-là aussi, la plupart des gestionnaires d'actifs avaient de l'argent à déployer, ils avaient de l'argent à investir, Et c'est vrai que cette classe du private credit est arrivée là-dedans. C'est de dire, bon, nous, on n'a pas toutes ces restrictions qu'ont les banques, puisque nous, on est libre de faire ce qu'on a envie avec notre argent, on peut l'investir au taux qu'on a envie, avec le profil de risque qu'on veut, bon, tout dépendamment évidemment de la politique d'investissement de l'asset manager, mais on n'est pas, on n'a pas ces règles que les banques ont, parce que nous, c'est notre argent, etc. On en fait ce qu'on veut, que quelque part, puis si tu perds ton argent, bah tant pis, au pire, c'est les investisseurs qui ont tout perdu, puis... Too bad, quoi. Ça faisait partie du deal dès le départ, tu vois. Et donc cette montée en fait du private credit a permis de financer effectivement de plus en plus d'opérations. Alors des fois c'est des opérations d'achat de matériel, de changement de la fusion-acquisition. Ça a été aussi par exemple du lending pour financer la croissance, de l'achat par exemple de nouvelles, je sais pas, de nouvelles machineries, etc. Tu as aussi de la dette qui a été faite pour faire du LBO, donc fois sont la dette un peu plus risquée, donc on appelle la dette mezzanine. Ça reste encore d'ailleurs, by the way, de la terminologie un peu plus complexe. Hein. D'ailleurs, soyez pas surpris, et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. J'essaierai du meilleur que je peux de pouvoir répondre à votre question, en tout cas si vous en avez une. Hein. Et cette nouvelle classe d'actifs est arrivée en fait avec ça. Bon, aujourd'hui, il y a eu effectivement une surge, évidemment, une montée très importante du private credit en 2022. Je crois que je lisais des rapports qui parlaient quasiment de 100%, ça avait doublé en un an. Je pense qu'effectivement, ça a un peu baissé. Je ne pense pas que ce soit aussi élevé, ça dépend de l'échantillon de référence dans lequel on parle. Mais on voit qu'effectivement, depuis des années, effectivement, ça continue à exploser. La raison principale, c'est qu'aujourd'hui, bah, les taux sont plus attractifs, évidemment. Waouh, révélation, les taux ont monté. Mais en plus, tu as un intérêt, c'est que non seulement tu as la portion intérêt, mais tu as la portion risque de crédit, ce qu'on appelle le spread, qui devient encore plus attractif, tu vois. Donc tu vas aller chercher un plus un rendement un peu plus intéressant. Tu vas avoir aussi un rendement par le fait que ce sont parfois des taux un peu plus courts que des taux à court terme. Donc les taux long terme sont souvent plus onéreux que les taux à court terme, ce qu'on appelle la term spread, etc. Et évidemment, le fait que ce soit illiquide, donc comme c'est illiquide, tu vas demander un rendement un peu plus intéressant, parce que tu ne peux pas revendre effectivement ce prêt privé que à part que si tu le vends à quelqu'un d'autre, un autre investisseur important. Donc l'intérêt, c'est d'aller chercher un peu plus de rendement, et c'est pour ça que cette industrie-là a tant décollé depuis quelques temps. Parce que effectivement, les rendements sont plus intéressants en fait. Tout est une histoire de marketing. Alors qu'en ce moment, le pays, c'est compliqué, c'est difficile d'avoir du financement, etc. C'est difficile d'investir, comme on l'a dit. Et donc, ce qui fait que bah là, maintenant, tout le monde veut du PC, tout le monde veut du private credit, et puis personne veut du PI. Donc, tu vois, c'est des tendances en fait un peu. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, JP, là, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça tout le temps d'ailleurs dans l'industrie de la finance. Maintenant. Tout le monde a tendance à suivre ce qui est déjà arrivé, tu vois. On dit, ah bon, les taux ont monté, ça y est, il faut aller dans le private credit. Mais en fait, c'est peut-être un peu trop tard, en fait, pour le coup. Fallait être visionnaire à l'avance, en fait.
Exact. Puis, je pense au-delà de la hausse des taux directeurs, il faut aussi rappeler ce qui s'est passé avec les banques, l'instabilité bancaire qui sont, tu l'as dit, là, les principaux créditeurs de plusieurs de ces compagnies-là, pas dans le monde du PC. Mais là, les banques sont un petit peu plus, et le sont encore, moins intéressées à faire du financement commercial. Je pense que ça aide également beaucoup à avoir cette amplification-là, mais comme toute chose, et tu l'as bien dit, cette espèce de mentalité de horde, là, une fois qu'on commence quelque chose, tout le monde embarque là-dessus, mais ça crée toujours des bulles. Il y a toujours trop de personnes qui rentrent dans ce type d'industrie-là et qui s'exposent au private credit. Et effectivement, ça va retomber dès que les taux directeurs vont être amenés à la baisse ou qu'il va du moins arrêter d'avoir une projection à la hausse qui est un petit peu là, ce qu'on voit présentement. Là, le Canada, la Banque centrale du Canada, l'a annoncé au niveau d'un maintien du taux directeur. Donc, ça montre un peu le fait qu'on va peut-être enfin plafonner et idéalement miser sur une baisse d'ici peut-être la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et comme on l'a dit, ben, les banques, avec un certain retour d'une stabilité économique, la fin de la récession qui n'est pas encore commencée, mais qui va probablement arriver et qu'on va s'en remettre parce que c'est un cycle, les banques vont aussi reprendre une mentalité plus expansionniste de vouloir faire des prêts, comme ça a été le cas également au sortant de la pandémie, où il y a eu énormément de volonté des banques au niveau commercial de faire du financement. Donc, on l'a dit, c'est un cycle, c'est intéressant le temps que ce l'était. Tu l'as bien dit, je pense même plus forcément que le private credit est encore intéressant dans le moment aujourd'hui où on enregistre le podcast. Je pense que le pic devait être, à mon avis, lorsqu'on a commencé à parler des grandes banques et de l'instabilité du secteur financier, qui n'est pas terminé, mais qui est quand même bien loin de où on était il y a de cela à peine un mois. Clairement que c'était peut-être là le prime time du PC, mais on n'y est pas. Puis je ris en disant PC parce qu'à chaque fois que je dis ça, je pense au President's Choice, qui est une marque de produits d'un supermarché canadien. Donc ça, j'en pleure presque à chaque fois que je le mentionne depuis tout à l'heure.
C'est un peu... Moi, ce qui me fait rire, c'est que non seulement ça me fait penser à ça, mais ça me fait penser genre comme si t'appelais le type Pierre-Charles, parce que c'est un peu l'acronyme TAS à l'UPC, genre. C'est
assez personal absurde. Computer, là, le fait qu'il faudrait que Pierre-Charles ait un PC de la marque PC, puis là, je pense qu'on peut rendre l'antenne.
Pour faire du private credit, mais bon, enfin, bref, c'est un peu...
Ça conclut.
C'est assez drôle. Après, bon, c'est vrai, un autre facteur aussi, par contre, que t'as mentionné, rapidement, c'est vrai que, aussi, rappelons que souvent, les prêts, en tout cas en private credit, aussi sont émis sur des taux flottants. Donc, c'est vrai que c'est là peut-être l'instabilité qu'elle va se créer à ce moment-là, parce que les taux flottants, ils vont. Donc, par exemple, le fameux SOFR ou le LIBOR, dont on avait parlé, qui vise à disparaître progressivement, en tout cas, pour les taux de jour.
Oui.
31 décembre, ça c'était pour le overnight, mais les termes, je crois que c'est. Il reste encore quelques taux.
Je crois.
Donc, c'est ça. Donc, tu as certains taux encore LIBOR qui restent actifs, on ne va pas perdre les auditeurs, là, mais. Ça reste encore d'actualité. Enfin bref, ces taux-là, ils vont suivre effectivement tout ce qui se passe au niveau des taux directeurs. Donc, si ces derniers vont commencer à baisser, bah, c'est là où peut-être on va avoir un peu moins d'appétit pour le private credit. Et la question aussi, la deuxième question, c'est la question du déploiement du capital. Parce que c'est bien beau de vouloir aller chercher des rendements de 18% parce que c'est, d'ailleurs, by the way, c'est ça en PI. C'est à peu près la règle du pouce, c'est à peu près 20% par année. Donc, c'est à peu près 5 fois, donc on appelle le MOIC, 5 fois sur 2 fois pardon, sur 5 ans. Donc, le but, c'est d'aller doubler ta mise, en fait, c'est ça, au bout de 5 ans. Et là, en ce moment, les taux, par exemple, en private credit, c'est pas anormal, des fois, de voir des produits qui vont faire, par exemple, je sais pas, entre 15 à 20% de taux d'intérêt. Donc, ce qui est, pour le coup, très intéressant, évidemment. Mais évidemment, c'est des produits quand même relativement risqués. Donc, c'est quand même à prendre avec des pincettes, évidemment, les rendements que je vous indique. Là, c'est plus à titre indicatif. Mais la question est de savoir, c'est bien beau de faire des 18%, mais est-ce que les gens vont vouloir emprunter à 18%? C'est un peu tout le but du resserrement monétaire des banques centrales. C'est qu'ils en font exprès, effectivement, de monter les taux. Et bien justement, pour que plus personne n'emprunte, que tu aies vraiment un ralentissement de l'emprunt et puis des conditions de crédit. Donc oui, ça devient intéressant. Pour les entreprises qui n'ont pas le choix d'emprunter à 18%, bah oui, c'est pour le coup, toi, quand tu prêtes à 18%, c'est incroyable. Je veux dire, il n'y a personne qui, je pense, est capable de faire du 18% en ce moment sur les marchés, même en stocks. Donc c'est ça qui est assez intéressant, tu vois, derrière l'aspect private credit et l'aspect aussi sécuritaire. Parce que si jamais on est dans un événement de défaut, de liquidation, bah tu es le premier à être payé, si tu veux. Donc, si jamais il y a un problème, je sais pas, la compagnie foire, il y a un peu moins de croissance, etc., le stock baisse, et ben toi, pour le coup, en tant que propriétaire des bonds, bah tu es un peu plus protégé, tu vois, par rapport aux événements négatifs qui peuvent arriver. Donc, c'est un peu le trade-off qu'il va falloir prendre en compte, évidemment, quand on commence à investir en private credit. Si d'ailleurs, ça vous intéresse qu'on exploite... Étendre un peu le sujet, bah, moi ça me fera plaisir en tout cas de pouvoir continuer la conversation là-dessus. Je ne sais pas si je pourrais parler pendant 2 heures de ça, mais en tout cas ça reste très intéressant.
Non, je pense qu'on a déjà fait un bon travail en deuxième segment du podcast pour le temps qu'on vient d'investir sur ceci. C'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Donc merci à nouveau Gab pour ta participation et merci d'ailleurs pour les deux sujets comme on a dit dans le contexte d'aujourd'hui. Pour vous en tant qu'auditeur, vous le savez, je le répète maintenant depuis que j'ai récupéré d'ailleurs la fin du podcast de Gab là, il y a de cela déjà plusieurs mois. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube qui est notre plateforme clé pour les commentaires de manière publique, donc n'hésitez pas à aller en même temps mettre un like sur la vidéo si vous avez apprécié le contenu, allez vous abonner à la chaîne et mettez la cloche pour également avoir les notifications. Pour ceux qui veulent faire également des commentaires, mais de manière plus privée, Gab met toujours dans la zone de description l'adresse courriel. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre dans le meilleur délai possible, en général très rapidement, à chacun de vos points que vous nous envoyez. Et sinon, pour la majorité d'entre vous, comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des plateformes audio, donc Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. de plus en plus la capacité là, de pouvoir interagir avec nous également sur ces plateformes-là, mais ça reste tout de même là, davantage des abonnements, des étoiles, des likes, des peu importe pour le contenu. Comme on l'a dit, là, tout ce qui est numérique aide énormément au référencement vers de nouveaux auditeurs là, dans la communauté. Mais c'est sûr que votre bouche-à-oreille reste, on le dit toujours, le centre et le core de ce podcast depuis bientôt 3 ans. Donc n'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos amis, à n'importe qui aimerait entrer dans le sujet. Et on se dit déjà tout le monde à la semaine prochaine. Bonne semaine, Gab.
Salut tout le monde, bye bye.